Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être ici parce que votre présence m'encourage en Christ. Et j'ai des frères et des sœurs et je vous remercie beaucoup. Notre texte, c'est Matthieu 5, 21 à 26, mais nous allons commencer au chapitre 1, d'accord? Il faut toujours le contexte. Donc, on va commencer au chapitre 1 de l'Évangile selon Matthieu. Et le titre de notre message, c'est « L'unité, la colère et la justice dans le règne de Jésus ». Vous souvenez-vous du thème de l'Évangile selon Matthieu? C'est quoi? Dans son Évangile, Matthieu nous présente le roi ultime qui est venu pour bénir le monde. Nous savons que Matthieu met l'accent sur la royauté de Jésus parce qu'il fait référence à plusieurs reprises au chapitre 1 au fait que Jésus est le fils de David, le roi. Verset 1, verset 6, le verset 17, le verset 20. Mais nous savons aussi, grâce au titre « Le Christ », au chapitre 2, vous pouvez regarder au chapitre 2, nous voyons que le titre « Christ » est lié avec l'idée de royauté. En réponse à la question des mages, où est le roi des Juifs qui vient de naître? D'accord? Quelle est la question que Hérode pose aux scribes? On voit au chapitre 2, le verset 2, le verset 4, qu'Hérode s'informa après des scribes où le Christ devait être naître. Les mages cherchaient le roi et les scribes cherchaient les passages dans la Bible qui parlaient de qui? Le Christ. Et ça nous donne cette idée. Le Christ, une partie de sa personne, c'est le fait qu'il est un roi. Jésus est le roi promis. Mais dans le récit de Matthieu, la royauté de Jésus est mise de côté jusqu'au chapitre 4. Bon, on peut tourner au chapitre 4 maintenant. D'accord? Et là, après son baptême, la tentation et l'emprisonnement de Jean, Jésus commence son ministère public en annonçant quel message? Quel est le message que Jésus commence à annoncer? Il dit quoi? Repentez-vous car quoi? Le royaume des cieux, de Dieu, est proche. Le verset 15 du chapitre 4. C'est-à-dire, repentez-vous parce que le roi est venu. Et 6 versets plus tard, Matthieu nous donne un résumé de l'activité de Jésus. Et pour votre lecture personnelle, ces versets introduisent la prochaine section de Matthieu. Il va parler tout de suite de ce qu'il a enseigné et après ce qu'il a fait jusqu'au chapitre 8, je pense verset 26, quelque chose comme ça. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du quoi? Verset 23, du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et selon le verset 25, une grande foule suivait Jésus. Il est vraisemblable que cette foule était constituée des personnes convaincues que Jésus est le roi promis, de personnes convaincues que Jésus n'est pas le roi promis, et de personnes indécises. C'est une grande foule. À la lumière de la composition de cette foule, il n'est pas surprenant que Jésus commence son sermon sur la montagne en décrivant l'esprit et les activités de ceux qui font partie du royaume de Dieu. Ça, c'est la première partie du chapitre 5. D'accord? On arrive maintenant au chapitre 5. On avance rapidement ce matin. Hein? Et on sait, comme Timothée nous a enseigné, il y a un truc qui s'appelle l'inclusio, au chapitre 5, le verset 3, chapitre 5, le verset 10, qui nous dit que toutes les béatitudes parlent du royaume de Dieu. Et il n'est pas non plus étonnant que Jésus contraste la justice de son royaume avec la justice promulguée par les chefs religieux des Juifs. Voilà, au verset 19 à 20, Jésus mentionne le royaume des cieux ou de Dieu trois fois. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiennes, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu, de cieux. Bon, face à une foule mixte, Jésus clarifie la nature de son royaume qui vient d'arriver. Le reste du chapitre 5 contient six contrastes entre l'enseignement traditionnel, ce qu'on suppose en tant qu'humain, et son propre enseignement, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus par rapport à son royaume. Voilà. Les versets 21 et 26, nous arrivons maintenant à notre texte pour ce matin. Ces versets contiennent l'enseignement traditionnel, ça c'est le verset 21, l'enseignement de Jésus sous la forme d'un parallélisme, verset 22, et troisièmement, deux illustrations, le verset 23 à 26. D'accord, ça c'est un peu le plan du passage, et je pense que ça va nous aider à comprendre ce que Jésus veut nous enseigner ce matin. Bon, je vais mettre le passage, c'est un peu difficile au début, mais j'avais raison, hein? D'accord? Parce que je veux vous montrer qu'il y a des répétitions de parallélisme pour nous aider à comprendre ce que Jésus veut enseigner. Donc, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera est passible du jugement. Ça, c'est l'enseignement traditionnel, ce qu'ils ont entendu au synagogue. Mais moi, Jésus, le roi venu, vous dis que celui qui se met en colère contre son frère est passible du jugement. On voit la répétition de cette idée d'être coupable, n'est-ce pas? Passible de jugement, passible de jugement. Celui qui dira « raca » à son frère mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et ça répète encore une fois cette idée d'être jugé, de mérite de jugement. Et celui qui dira « insensé » à lui, à son frère, mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Et ça, c'est encore une fois la répétition de cette idée de la punition, du jugement. Vous voyez, c'est le parallélisme là. Ici, dans ce côté, on a le jugement, et ce côté, on a le meurtrier, non? Bon, quelqu'un qui tue, et ici, met en colère, dira raca parce qu'il s'est mis en colère, et il dit insensé parce qu'il s'est mis en colère. On a la répétition de ces idées. Voilà, et ça nous donne la capacité de comprendre ce que Jésus veut dire. Il continue avec les illustrations. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement, ça c'est la deuxième illustration, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Nous méditerons ces versets sur les points suivants ce matin. Voilà. Le roi affirme son autorité suprême. Le roi rejette le légalisme. Et le roi met en avant l'unité. Ce sont nos trois points de considération ce matin. D'accord. D'abord, le roi affirme son autorité suprême. Nous voyons l'affirmation de l'autorité suprême de Jésus dans le contraste qu'il fait entre l'enseignement traditionnel et son propre enseignement. D'abord, notons comment Jésus introduit l'enseignement traditionnel. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Et cette introduction peut faire référence à l'Ancien Testament. Mais je ne pense pas que Jésus soit en train de mettre en opposition son enseignement avec l'enseignement de l'Ancien Testament. Parce que il vient d'affirmer fortement l'inviolabilité de la loi. Bon, on ne peut pas oublier le contexte, ce qui s'est passé juste avant. Mais aussi, de plus, Jésus utilise une expression qui implique l'enseignement des rabbins. Le fait que Jésus dit « vous avez entendu » signifie qu'il pense à l'enseignement reçu par le peuple dans les synagogues. Et l'enseignement que Jésus cite ne se trouve pas dans cette fonte dans l'Ancien Testament. Il est en fait la compilation de deux passages de l'Ancien Testament. Et ce fait implique que Jésus fait référence à l'interprétation des rabbins. C'est-à-dire, ils ont trouvé dans Exode 20, tu ne trouveras point. Et ils ont trouvé dans un autre passage qui parlait du fait que ceux qui tuent doivent être jugés. Donc, ils sont coupables. Ils les ont mis ensemble et voilà, on a l'enseignement. Mais est-ce que ça, c'est vraiment la bonne compréhension de l'Ancien Testament? Et je pense que cette compréhension que Jésus parle à l'enseignement des scribes, je pense que cette compréhension de cette citation est soutenue par le commentaire de Matthieu, chapitre 7, le verset 28 et 29. Regardez avec moi Matthieu 7, ça c'est après le sermon. Matthieu nous donne un peu de la réponse des gens, de la foule qui était là. Et le verset 28, « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. » D'accord, moi je peux comprendre parce que c'est une doctrine assez, assez frappante quand même. Mais Matthieu continue avec l'explication pour nous. Pourquoi ils étaient frappés par sa doctrine? Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Parce que les scribes, à cette époque-là, ils disaient quoi? Tel et tel rabbin, il a dit ça. Et tel rabbin, il a dit ça. Ils ont cité beaucoup d'hommes qui ont interprété la Bible. Et Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit par ces scribes. Mais moi, je vous dis. Et ça nous amène au deuxième point, la signification de « mais moi, je vous dis ». Notons comment Jésus introduit le contraste de l'enseignement traditionnel. Il ne dit pas ce que l'Ancien Testament enseigne. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais l'Ancien Testament a vraiment dit. N'a pas dit ça. Il ne dit pas ce que Dieu voulait vraiment dire. C'est-à-dire, vous avez entendu qu'il a été dit. Mais ce que Dieu voulait vraiment dire, c'est... Il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je. Il met l'accent sur le fait que son enseignement devient de son propre autorité. Ça, c'est incroyable. Si un homme arrive ce matin et il est devant nous et dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, il faut dire non. Arrêtez-vous. Hein? Nous voulons entendre ce que Dieu dit. Mais Jésus, quand il est arrivé, il a dit quoi? Moi, je vous dis. Jésus affirme son autorité suprême en tant que le roi. C'est une affirmation forte. Et jusqu'à ce point, nous lisons le récit d'un bébé royal, un homme baptisé, un homme tenté, un homme qui parle du royaume de Dieu. Et comme le foule, nous sommes attirés par cet homme. Waouh, quel homme! Mais imaginons la surprise de cette foule juive quand Jésus commence à leur donner ses commandements sur la base de sa propre autorité. Pas étonnant que Matthieu raconte, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité. Leur étonnement me fait penser à un jour où un nouveau professeur a pris en charge un cours que je suivais quand j'étais à l'université. D'accord? J'ai étudié la théologie et aussi l'histoire. Et c'est un cours d'histoire. Et le premier professeur est tombé gravement malade. Il a dû donc être remplacé. Et le problème pour nous, les étudiants, était que le premier professeur était très doux et, si je dis honnêtement, franchement, il était trop décontracté, franchement. Mais il n'en était pas ainsi du nouveau professeur. Hein. Le premier jour, il a annoncé ses attentes, c'est-à-dire ses lois hein, pour nous. Et nous avons noté d'emblée la différence et notre comportement a montré notre compréhension. Un nouveau règne est arrivé et nous étions obligés de nous y conformer. De même, Jésus nous dit clairement, un nouveau règne est arrivé et je vous dis mes attentes. Et la question pour nous est, comment répondrons-nous à son autorité? Avec la soumission ou la résistance? On a deux choix. Que deux choix. Ça, c'est l'autorité suprême du roi qui est venu. Mais deuxièmement, le roi rejette le légalisme. D'accord? Après avoir affirmé son autorité suprême, Jésus rejette le légalisme. Afin d'être clair, je vais partager avec vous la façon dont j'utilise le terme le légalisme dans ce contexte, d'accord? Le légalisme est égal à être dépendant de la loi. D'être dépendant de la loi. Ça, c'est le légalisme. Et il me semble qu'il y a deux manifestations du légalisme. Deux manifestations de légalisme. Deux manifestations de ceux qui sont dépendants de la loi. La première manifestation du légalisme est un légalisme fastidieux. D'accord? Un légalisme fastidieux qui cherche à obtenir l'approbation de la loi. Il cherche l'approbation. Légalisme fastidieux, c'est-à-dire consciencieux, qui cherche à obtenir l'approbation de la loi par ses propres œuvres, son propre mérite. C'est le légalisme auquel on pense le plus souvent quand nous entendons le mot légalisme. Ces légalistes sont les personnes qui font de leur mieux pour observer toute la loi. Bon, ils sont consciencieux, ils sont et ils comptent sur le fait que leur observation de la loi gagnera pour eux l'approbation de la loi. Ça, c'est le légalisme fastidieux. Le problème avec le légalisme fastidieux, c'est qu'il adoucit l'exigence de la loi en espérant qu'un succès partiel sera acceptable. Ce genre de personne ne nie pas qu'il viole parfois la loi. Elle sait qu'elle n'est pas parfaite. Hein? Mais dans ma vie courte, j'ai déjà parlé à beaucoup de légalistes fastidieux. Et sans exception, ils admettent leurs imperfections tout en insistant qu'ils seront justifiés par leurs œuvres parce que la loi acceptera leurs petites violations. Vous voyez? Ce sont les gens qui, peut-être souvent, ils sont vraiment bien motivés. Hein? Ils voulaient obtenir l'approbation de la loi. Mais ils savaient qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais ils ont cette espérance. Bon, peut-être les petites violations soient couvertes. Hein? Mais la loi ne marche pas comme ça. Jacques, chapitre 2, le verset 10, nous dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement. » Un seul. Il devient coupable de tous. Quant à la quantité de l'obéissance, la loi exige 100%. Rien de moi n'est acceptable. Violer une seule loi et devenir un hors-la-loi, un criminel. Donc, le légalisme fastidieux n'apporte que la peine, le jugement et la punition. Et Jésus le rejette. Cette manifestation de légalisme est la plus connue, mais il en existe un autre. Voilà. Il y a aussi le légalisme laxiste, qui cherche à éviter la condamnation de la loi en faisant juste ce qu'il faut et de plus. Hein? Juste ce qu'il faut. Mais ils sont dépendants quand même de la loi. Cette manifestation de légalisme diminue l'exigence de la loi en prétendant que la loi ne demande plus que ce qui est écrit explicitement. Bon. Nous pouvons illustrer cette attitude par un enfant qui se défend auprès de sa maman après avoir pincé son frère et ce qu'il dit c'est quoi? Mais tu me l'as dit. Ne tape pas ton frère. J'ai observé ta loi. Tu n'as pas dit ne pince pas. Tu as dit tu ne frappes pas. Je suis pas coupable. Bon, ça c'est le légalisme laxiste. Ce petit garçon, il compte sur son observation de la loi explicite pour éviter la punition. Mais est-ce que ça marche comme ça? Dans notre passage, Jésus condamne ce genre de légalisme laxiste. Jésus aborde la question, qui mérite le jugement? Vous rappelez de qu'est-ce qu'il a dit? On a vu cet homme, si tu tueras, tu es passible, merci, du jugement. D'accord, on a maintenant, c'est quoi qui mérite le jugement? C'est le meurtre. Mais Jésus dit, non, vous ne comprenez pas. Moi, je vous dis, vous ne pouvez pas être comme ça. Vous ne pouvez pas être comme ça. Dans le cas de la colère, nous disons que le meurtre mérite le jugement. Mais taper quelqu'un est aussi grave, mais une telle action ne mérite pas le même jugement. Hein? Parce qu'on fait les gradations, n'est-ce pas? Meurtre, on a tapé après, craché au visage, ça c'est grave, mais moins grave que de taper quelqu'un. Crier sur quelqu'un, bon, ça c'est pas bon, mais ce n'est pas aussi grave de cracher au visage. Tirer la langue n'est pas gentil, mais bon, si vous trouvez à la Martinelle, ça c'est grave, c'est terrible. Mais pour nous, hein, on crée des dégradations de culpabilité, n'est-ce pas? Mais en créant une telle liste, nous ne tenons pas en compte que le même sentiment est au cœur de chaque action, la colère. Jésus dit qu'un tel légalisme laxiste ne suffira pas dans son royaume. La loi écrite n'est que le fruit d'un racine beaucoup plus profonde, le caractère de Dieu. Violer le fruit, c'est de violer la racine. Le roi Jésus rejette le légalisme fastidieux et le légalisme laxiste. Maintenant, on va considérer ensemble le roi met en avant l'unité. À mon avis, ce passage fait l'accent sur l'unité. Le roi met en relief le fait que l'unité est une manifestation de la justice dans son royaume. Nous arrivons maintenant au cœur de l'enseignement de Jésus dans ces versets. Rappelons-nous que Jésus est venu en tant que roi et il est en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et juste avant notre passage, au verset 20, Jésus a dit, « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. » Et dans notre passage, il continue à enseigner en parlant du comportement acceptable dans le royaume des cieux. Il parle de l'éthique, il parle de ce qui est juste. La justice est le sujet. Mais on peut poser, quel est le sujet du passage ce matin? Et je pense, normalement, on dit c'est la colère. Ça, c'est notre première réponse. Ça, c'était la mienne. Mais je pense que nous pouvons l'identifier, c'est-à-dire identifier le sujet principal en notant deux détails du passage, d'accord? D'abord, regardez ce que la Bible dit. Notons comment Jésus décrit la victime au verset 22. 23 et 24. 22, 23 et 24. Il appelle ton frère, n'est-ce pas? J'espère que, sinon je me suis trompé. Hein. Oui, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Le verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec qui? Ton frère. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Ça c'est le 25. J'ai sauté le 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère. Et au verset 25, l'illustration suppose que les deux hommes sont sous le même système judiciaire, n'est-ce pas? Ils parlent d'aller au tribunal, c'est-à-dire ils sont sous le même système judiciaire. Et notre première observation est que la justice dont Jésus parle touche la vie dans une communauté. Il parle des frères, des hommes qui sont sous le même système judiciaire. Donc, il parle d'une communauté. Et dans le contexte de l'Évangile, cette communauté est le royaume de Dieu que Jésus inaugure par sa vie, sa mort et sa résurrection. Ensuite, notons le problème qui existe dans la communauté selon les deux illustrations racontées au verset 23 à 26. Vous êtes avec moi? Au verset 24. La solution du problème est d'être réconcilié. Vous voyez? Laisse ton offrande devant l'autel et d'abord va te réconcilier avec ton frère. Le problème, c'est un manque de réconciliation, ou on peut dire la division, désaccord, désunion. Au verset 25, la solution est de retrouver l'accord. Et le problème dans les deux illustrations est donc le désaccord. Ces deux observations nous permettent de voir que la justice dont Jésus parle est l'unité parmi les citoyens de son royaume. L'injustice est identifiée comme la colère qui casse l'unité dans la communauté du Seigneur. Donc nous pouvons faire trois observations sur la colère, l'unité et la justice dans une communauté comme une église, par exemple, qui est la manifestation du royaume de Dieu aujourd'hui. D'abord, le roi dévoile l'œuvre principale de la colère. Elle détruit l'unité. La colère détruit l'unité. Bon, Jésus commence en parlant de la division extrême, le meurtre. Une personne qui tue une autre personne va à l'extrémité de la colère. Il cause une division permanente entre lui et l'autre être. Bon, on sait. Mais la colère a aussi des manifestations moins graves, Par exemple, comme l'abus verbal. Et ça, c'est ce que Jésus cible ici. Au verset 22, Jésus condamne le mépris ou le dédain pour quelqu'un. D'accord? Le mot raca communique l'idée de tête creuse. Il existe en français, je pense, plusieurs mots ou expressions qui correspondent à ce mot, comme écervelé, étourdi, ou dépourvu de bon sens, et beaucoup d'autres choses, j'imagine. Ce mot raca signifie donc quelqu'un qui injure une autre personne par les mots qui révèlent son mépris de lui. Une telle insulte ne peut que causer une division, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous dit, bon, vous êtes écervelé, c'est pas exactement gentil, hein? Ça va causer un problème, de la division. On peut conclure du passage que ce mot raca était vraiment, vraiment mauvais, un gros mot terrible, parce que la personne qui l'utilisait selon Jésus, méritait d'être punie par un tribunal. Mais le mot n'était pas en fait plus qu'une insulte relativement inoffensive selon les spécialistes d'araméen. C'est-à-dire, ce n'était pas vraiment un gros mot. C'est comme on dit, t'es stupide. Non, c'est pas gentil, mais on n'appelle pas les policiers. Et nous ne pouvons pas dire, donc, que c'est seulement les éruptions graves de la colère qui sont passibles du jugement. Et ça, c'est notre façon de penser, n'est-ce pas? Bon, j'ai pas tapé cette personne. Bon, j'ai pas crié sur lui. J'ai dit seulement un mot. Oui, c'est pas gentil, mais je suis pas coupable. Mais Jésus dit, celui qui dira à son frère raca, il mérite d'être puni par le Sanhédrin. Même les mots assez inoffensifs sont coupables en raison de leur lien avec la colère et avec la division qu'elles provoquent dans la communauté de Jésus-Christ. Jésus condamne également la diffamation ou le fait de salir la réputation de quelqu'un. Appeler quelqu'un insensé communique plus que le fait qu'il ne raisonne pas du tout bien. Le mot indique un manque de caractère moral et peut être utilisé d'une manière juste parce que Jésus l'utilise au chapitre 23, le verset 17. Non? Mais dans notre passage, le parallélisme, vous rappelez, le passage est mis en parallèle. Hein? Ce qui se met en colère contre son frère. Et après, il dit, d'accord, ce qui dira raca à son frère. Et après, celui qui lui dira. C'est-à-dire, les trois choses sont liées avec la colère. Il a dit insensé parce qu'il a été en colère. Et en français, j'ai trouvé ce mot, canaille, pour communiquer cette idée. Bon, il n'est pas difficile d'imaginer qu'une telle insulte peut créer une division profonde entre deux personnes. Mais est-elle vraiment digne d'être punie par le feu de la géhenne? Bon, ça c'est assez sévère, n'est-ce pas? Mais Jésus l'a dit. Jésus répondra à cette question avec un oui. Parce que la colère derrière la diffamation divise. Et l'unité dans mon royaume est essentielle. Ça, c'est la réponse de Jésus. Deuxièmement, on voit que le roi dévoile le caractère odieux de la colère. Elle mérite la punition sévère. Le parallélisme du passage implique que la colère mérite la damnation tout comme le mérite le meurtre. Bon, ça, c'est direct et fort. Mais c'est ce que Jésus dit. Cette interprétation est soutenue par l'affirmation effrayante du verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiennes, qui n'étaient pas les hommes immorales, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas nous contenter du légalisme laxiste qui dit qu'il suffit de ne pas tuer. J'ai jamais tué une personne. Je suis OK. Jésus dit non. Nous devons aller plus loin. Nous devons garder l'unité de la communauté. Il faut éviter à la colère. La colère, tout comme le meurtre, mérite une punition sévère et permanente parce qu'elle est odieuse par nature. Elle brise l'unité qui doit exister dans le royaume de Jésus. Mais cette unité, l'unité, est-elle vraiment si importante? Bon, on aime avoir une atmosphère assez détendue, agréable, mais l'unité, est-ce que l'unité est si importante que ça? Et on va considérer maintenant que Jésus dévoile la nature importante de l'unité. La réconciliation est urgente. Au verset 23 et 24, Jésus nous enseigne que le rétablissement de la paix entre deux citoyens de son royaume est plus important que la participation dans la louange publique. C'est-à-dire, si vous devez choisir entre louer le Seigneur avec l'Église et vous réconcilier avec un frère ou une sœur, il faut choisir la réconciliation avant de louer le Seigneur avec l'Église. Cela n'implique pas que le culte n'est pas important. Il est très important et commandé par Dieu. Mais l'unité est importante aussi. En fait, L'unité est si importante que la désunion rend le culte nul aux yeux de Dieu. La réconciliation est donc urgente. Vous devez louer le Seigneur avec l'Église, mais vous ne pouvez pas le faire si vous ne vous êtes pas encore réconcilié avec votre frère, votre sœur, votre enfant, votre mari, votre femme, votre sœur, votre frère. Vous voyez, la colère divise et Jésus dit, je n'accepte pas l'égalisme laxiste qui dit, bon, je ne l'ai pas tapé, c'est OK. Au verset 25 à 26, Jésus nous enseigne que l'accord entre deux citoyens de son royaume est urgent en raison du jugement qui tombera sur ceux qui ne se réconcilient pas aux autres. L'utilisation de l'adverbe promptement nous montre l'urgence de la réconciliation. Nous ne pouvons pas laisser traîner la désunion. Bon, et ça, c'est une tentation, n'est-ce pas? Bon, si je me tais, peut-être ça va passer. Hein? Je vais le laisser à côté pour une semaine, peut-être elle va oublier. Hein? Et tout sera bien après. Jésus dit non. Non, on ne peut pas attendre comme ça. Promptement. Mais pourquoi? Et Jésus nous avertit, le jugement viendra et le jugement est exigeant. Une personne qui refuse de se réconcilier montre qu'il mérite la punition parce qu'il n'est pas vraiment un citoyen du royaume de Jésus. Voilà comment appliquer ce passage à notre vie. C'est assez clair, n'est-ce pas? Mais j'ai mis deux questions dans mes notes. Hein. Suis-je un légaliste? Soit fastidieux, soit laxiste. Hein. Et cela dépend en part de ma personnalité. Mais sommes-nous des légalistes? Sommes-nous dépendants de la loi pour l'approbation et pour éviter le jugement? Bon, si vous lisez ce passage et vous vous sentez écrasé, je ne peux pas faire ça. Et vous êtes vraiment découragé. Qu'est-ce que je peux faire? Attention. Ça, c'est ce que le passage doit faire, mais la réponse est toujours quoi? On est justifié uniquement par la foi qui est mise uniquement en qui? Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Je vais vous lire un passage en Galates. Chapitre 2. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, c'est-à-dire un homme qui est un légaliste fastidieux dit « Je vais gagner l'approbation de la loi, la justification de la loi par mes œuvres. » La Bible dit « Non, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. » Mais un légaliste laxiste dit, bon, je vais faire ce que je dois faire afin d'éviter le jugement de la loi. Mais la Bible dit, non, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si parmi nous il y a des légalistes qui cherchent l'approbation de Dieu par les œuvres de la loi, sachez que c'est impossible. Mais l'approbation de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ par la foi, Dieu vous aime. Il vous voit comme vous êtes Jésus-Christ, la justice de Christ. Vous avez l'approbation de Jésus-Christ et vous n'avez pas besoin de l'approbation de la loi, de nos voisins, de personne. Quelle grâce! Quelle grâce! Il ne faut pas être un légaliste. La deuxième question, parce qu'il faut, le poser. Que puis-je faire avec ma colère? Parce que je doute qu'il y a une personne dans cette salle qui ne lutte pas avec la colère, qui s'allume comme ça. C'est vrai, n'est-ce pas? Il faut être honnête, hein? Que puis-je faire avec ma colère? Donc, première chose, chapitre 5 de Galates, de la lettre aux Galates. Donc, je ne peux pas voir le montre, donc on a du temps. Paul parle des œuvres de la chair. Right? Est-ce que vous avez jamais noté combien d'œuvres il mentionne ici? C'est pas mal, hein? Le verset 19. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté et le dérèglement. Ce sont trois choses qui sont liées, n'est-ce pas? Ils sont ensemble. Et normalement, quand je pense à la chair, je pense à ces trois choses, n'est-ce pas? Après, il mentionne deux choses qui vont ensemble. L'idolâtrie et la magie sont souvent liées ensemble. Mais notons maintenant combien de mots il utilise pour exprimer les manifestations différentes de la colère. Les rivalités, les querelles. Comment? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ok, d'accord. Désolé. Les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et l'envie. Bon, si vous luttez contre la colère, c'est pas anormal. Vous voyez? Paul savait, le Saint-Esprit savait que la colère est un problème pour nous. D'accord? Il ne faut pas être choqué. Nous sommes des personnes colériques. Mais comment lutter contre la colère? Parce qu'on peut pas être, on peut pas se contenter d'être colérique. Hein? Comment lutter contre la colère? Bon, je vais vous transmettre une idée que j'ai tirée d'un livre sur la colère. Et l'auteur suggère qu'on tienne un journal. C'est-à-dire, on écrit chaque fois qu'on se met en colère, qu'on écrit des choses pour nous aider à comprendre le pourquoi et qu'est-ce que je dois faire la prochaine fois. Vous voyez? Et il suggère quelques questions. Je vais vous lire ces questions et j'espère qu'ils sont un peu proches à la français, mais je ne sais pas parce que je les ai écrits après avoir envoyé mon message à Vincent. Il suggère ces questions. La première question. Quelle circonstance a provoqué ma réponse colérique? D'accord? Quelle était la situation? Je vais analyser ma colère. C'était quoi qui m'a provoqué d'être en colère? Première question. Et maintenant, on va avoir deux regards différents. On a un regard interne et un regard externe. On va commencer avec l'interne, d'accord? Par rapport à ce qui se passe dans le cœur, on peut poser trois questions. Trois questions. Qu'est-ce que j'ai pensé en réponse à cette circonstance? C'est-à-dire, quand peut-être quelqu'un vient et il me blesse, quelle était ma première pensée? Je mérite mieux que ça, peut-être? Bon, suis-je la seule personne qui pense comme ça? J'espère pas. Souvent, quand quelqu'un fait quelque chose contre nous, nous pensons, moi, je mérite mieux que ça. N'est-ce pas? D'accord. Il faut chercher quelle était ma pensée. Deuxième question. Quel désir nourrit mes pensées? C'est-à-dire, ça c'est un peu difficile. Quel désir nourrit ce genre de pensée? Par exemple, si une personne me blesse et moi je suis en colère maintenant, parce que mes pensées disent, elles me disent, tu mérites mieux que ça. Ou peut-être, tu n'as pas reçu la gloire. Bon, quel désir nourrit ce genre de pensée? C'est les désirs pour peut-être ma propre gloire, ou pour être à l'aise tout le temps, pour ne pas être gêné ou dérangé. Oui, beaucoup de pensées. Peut-être une personne me blesse et ma première pensée c'est, bon, elle l'a fait déjà 1000 fois. Quelle pensée nourrit ce genre de réponse? Quel désir? C'est le désir pour moi. J'aime moi-même. J'aime pas l'autre personne parce que je ne suis pas en train d'oublier leur faute. Vous voyez, il y a un désir qui nourrit les pensées, qui nous dirige à une réponse. Ça, c'est notre problème. Et après, il faut toujours poser cette question. Mes désirs et mes pensées sont-elles bibliques? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à une pensée qui dit « je mérite mieux que ça » Est-ce que ça, c'est en accord avec ce que la Bible enseigne? Ou il faut tenir compte de ce que les gens font contre toi. N'oublions jamais une tort. Est-ce que ça s'accorde avec la Bible? Mais nous pensons comme ça, n'est-ce pas? Il faut juger nos désirs et nos pensées par la Bible. Mais maintenant, pour le regard externe. Quels mots ou quelles actions sont sortis de mon cœur en réponse à cette circonstance? J'ai crié, j'ai fumé peut-être, bon, pas fumé, je ne sais pas comment dire en français. J'étais très en colère, mais je n'ai pas dit les choses, mais avec mes yeux, j'ai communiqué. On peut faire, n'est-ce pas? Ou avec mes actions, j'ai tourné le dos, Ils sont des mots et des actions qui sortent. Il faut écrire. Quand une telle circonstance est arrivée, moi, j'ai fait ça et ça et ça. D'accord? Et après, on peut poser cette question. Comment la Bible évalue-t-elle ma réponse externe, mes paroles et mes actions? Est-ce que la Bible parle de ça? Et comment pourrais-je répondre d'une manière biblique la prochaine fois? Est-ce que vous voyez, cet homme, je pense qu'il a raison, hein? Il faut analyser ce qui s'est passé afin d'éviter ce qui va venir. Parce qu'on sait que les mêmes circonstances arrivent jour après jour après jour. Et si nous ne voulons pas être mis en colère jour après jour après jour et blesser notre Seigneur, il faut faire des choses. On doit agir. Et comment agir? Analyser ce qui s'est passé. Essayer de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et mettre la parole dans nos cœurs. Chaque fois qu'on dit qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça, ça met un peu plus de la parole dans le cœur. Et j'ai eu la question ce matin, comment la parole change nos réactions? Parce que franchement, d'être mis en colère, ça vient comme ça, n'est-ce pas? C'est pas comme je réfléchis, hein. Ah, bon, je vais me mettre en colère. Ah! Bon, ça arrive comme ça, hein. Comment changer une telle réponse qui vient sans effort? Bon. Lisons ensemble en Colossiens, chapitre 3, je pense qu'on peut lire. Les versets 16, 17. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. C'est-à-dire, il ne faut pas bâtir un petit cabin pour la parole de Dieu dans nos cœurs. Hein, il faut un palais énorme, riche, beaucoup, hein. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous faisiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quand on met la parole dans nos cœurs. Et on est systématique en essayant de mettre, de méditer, de mémoriser la parole. La parole devient plus grand que nous dans nos cœurs. Et avant, je pensais, moi, je mérite mieux que ça. Mais après avoir passé les mois dans la parole, c'est la parole qui parle maintenant et qui dit, non, tu ne mérites rien que jugement. Et ça adoucit notre esprit. Et quand la personne nous blesse, oui, c'est difficile et parfois on chute, mais de plus en plus c'est la Bible qui parle et qui répond et qui nous a affranchis du péché. Dans notre communauté, hein, l'unité est notre justice. C'est une manifestation de la justice. Nous devons garder la paix. Nous devons nous réconcilier avec les autres. Mais ne soyons pas choqués quand vous êtes blessés, parce que ça fait partie de ce monde. Ne soyez pas choqués quand vous êtes la personne qui blesse. Mais il faut faire deux choses, toujours deux choses. Nos réponses sont toujours se repentir et croire en Jésus-Christ. Ça, c'est notre espérance. Ça, c'est aussi notre capacité de vivre de plus en plus. On prie ensemble. Notre Père, quel privilège de dire Père à toi parce que nous ne sommes pas dignes. Nous étions loin de toi et contents d'être loin de toi. Mais tu nous as cherchés. Tu as envoyé ton Fils unique et bien-aimé pour nous. Et nous voulons vivre en réponse à cet grand amour, les vies qui sont agréables à toi, sont en accord avec notre appel. Mais nous confessons notre colère. Nous sommes trop souvent en colère. Et ce n'est pas une colère juste contre les actions qui vont contre ta volonté. Non, nous sommes en colère parce que notre volonté ne soit faite. Pardonne-nous en Jésus-Christ, mais aide-nous à vivre d'une manière qui te plaît, par l'Esprit qui est en nous et grâce à la parole qui nous change. Nous prions au nom de Jésus. Amen.